tous les mois sur Fréquence Mistral, retrouvez votre émission littéraire Des coups au cœur. Émission proposée par Anne-Marie Smith et Tiziana. L'association Littéra 05 vous propose de voyager au gré des pages et de vous évader avec les bouquins coup de cœur.
Bonjour lecteurs de Fréquence Mistral, nous voilà à nouveau pour une présentation d'un auteur, de deux livres aujourd'hui d'un même auteur. J'ai avec moi Simone qui présentera justement un livre et moi-même aussi donc. Alors il s'agit de Bérengère Cournutte. Pourquoi Bérengère Cournutte? Parce qu'on l'aime bien, mais aussi parce qu'elle vient à la médiathèque de Chorges le 13 octobre 2022. Et qu'on va bien sûr participer un petit peu à cette rencontre en faisant des lectures de son œuvre et aujourd'hui des lectures à Fréquence Mistral. C'est une écrivaine un petit peu particulière dans le paysage littéraire français. Elle nous entraîne sur des sentiers assez particuliers. Elle, en fait, à travers ses livres, elle poursuit une recherche bien particulière. Elle veut trouver une sorte de vision poétique du monde, une forme de liberté. C'était le cas avec son roman « Né à Oreby » qui est paru aux éditions Le Tripode en 2017. C'est l'histoire d'une jeune petite amérindienne qui a perdu ses parents, mais qui vit avec son peuple Hopi sur un plateau aride d'Arizona. Et ce peuple vit dans des conditions de dénuement extrême. Mais pour compenser justement ce dénuement, ce peuple a développé des croyances qui montrent la beauté du monde totalement aux antipodes de notre monde à nous. Voilà, Née contente à Oreby. Un autre de ses romans paru en 2019, toujours au Tripode, De pierre et d'os. Simone vous en présente quelques extraits.
Bonjour. Alors, je vais vous présenter ce livre de pierre et d'os qui s'attache à la culture des Inuits. Il n'est pas vraiment situé dans le temps, mais c'est à une période où les Inuits n'avaient pas d'autre solution pour vivre que de chasser et de pêcher dans des territoires très difficiles, très gelés. Alors, la première partie... Je vais vous lire le début, parce qu'il s'attache à un personnage que nous allons suivre tout le long du roman, qui est Uxur Alik, qui est une très jeune fille au début du roman. C'est la troisième lune depuis que le soleil a disparu derrière la ligne d'horizon, et la première fois de ma vie que j'ai si mal au ventre. Me décoller du corps chaud de ma sœur et de mon frère, me dégager des peaux qui nous recouvrent, descendre de la plateforme de glace. Sous son dôme, ma famille ressemble à une grosse bête roulée sur elle-même. D'ordinaire, je respire comme tous du même grognement de mon père. Mais cette nuit, une douleur me déchire et m'extrait. Enfiler un pantalon, des bottes, une veste, me glisser hors de la maison de neige. L'air glacé entre dans mes poumons, descend le long de ma colonne vertébrale, vient apaiser la brûlure de mes entrailles. Au-dessus de moi, la nuit est claire comme une aurore. La lune brille comme deux couteaux de femme assemblés, tranchant sur les bords. Tout autour court un vaste troupeau d'étoiles. La lumière faible et bleutée qui tombe du ciel révèle sous moi un liquide sombre et visqueux. J'approche mon nez de la neige. On dirait que mon ventre délivre du sang et des foies d'oiseaux. Qu'est-ce encore que cela? Penché sur la flaque, je n'ai pas entendu le grondement au loin. Lorsque je sens la vibration dans mes jambes, il est trop tard. La banquise est en train de se fendre à quelques pas de moi. L'igloo est de l'autre côté de la faille, ainsi que le traîneau et les chiens. Je pourrais crier, mais cela ne servirait à rien. L'énorme craquement a réveillé mon père. Il se tient torse nu devant l'entrée de notre abri. Portant la main à sa poitrine, il me lance sa dent d'ours accrochée à un lacet. Il me jette également un lourd paquet au brimat. C'est une peau roulée, serrée. Le harpon qui l'accompagnait s'est brisé sous son poids. J'en récupère le manche, tandis que l'autre partie s'enfonce dans la soupe de glace. Disparaissant lentement, la flèche fait un bruit étrange de poisson qui tète la surface. La silhouette de ma mère se dresse maintenant aux côtés de mon père. Ma sœur et mon frère sortent l'un après l'autre du tunnel de l'igloo. Nous ne disons rien. Bientôt, la faille se transforme en chenal. Un brouillard s'élève, de l'eau sombre. Petit à petit, ma famille disparaît dans la brume. Le cri de mon père imitant l'ours me parvient, de plus en plus lointain, jusqu'à s'éteindre tout à fait. Un silence lugubre envahit mes oreilles et me raidit la nuque. Donc, on passe ensuite. Uxur-Alik va devoir vivre sur la banquise toute seule. Elle rencontre un homme qui devient son époux. Après de nombreuses circonstances, cet homme disparaît. Je vous lis un autre passage. Je dois maintenant partir d'ici. J'avais un époux et une famille. Voici qu'à nouveau, je n'ai plus rien. Je rassemble peu d'objets que je possède. La peau d'ours que m'a lancée mon père est trop lourde. Et Tulukarak est parti avec notre seul fusil. De toute façon, sans traîneau, sans partenaire, je ne peux pas emporter grand-chose. Au moment où je m'apprête à quitter cet endroit maudit, avec seulement une brassée d'affaires, un cri me fait sursauter. Au lieu de se serrer, mon cœur bondit. Je reconnaîtrai ce jappement entre mille. C'est Ikasuk. Les autres seront allés déposer les chiens sur une île pour l'été. Mais elle aura refusé d'embarquer sur le grand bateau pour revenir à moi. Je suis si heureuse de revoir ma chienne. Elle m'aidera à porter mon chargement. Je roule dans ma vieille peau d'ours tout ce que je trouve, d'os, de tendons, de peau mâchée et ficelles, le tout sur le dos d'Ikasuk. Nous tournons le dos à la mer pour nous enfoncer dans la toundra. Au loin, sous le soleil descendant, les glaciers forment une longue ligne rose au-dessus de laquelle se massent quelques nuages bleus foncés. Un petit peu plus loin, je me réveille, les pieds dans l'eau, la tête sur des galets. Où suis-je? Où est l'empilement de pierres? Plus rien ne siffle à mes oreilles, mais le ciel est strié de vols d'oiseaux, des mouettes, des goélands, des martins pêcheurs, des bruants. Cette profusion d'oiseaux remplit mon cœur de joie. Leurs cris, leurs pépiments font vibrer mes tympans et ce chatouillement se propage dans mon corps jusqu'à mes orteils. À moins que, mais oui, mes pieds nus trempent dans l'eau du lac où de petits poissons fouillent la vase pour trouver de la nourriture. Je m'assois pour battre des jambes. Le clapotis me donne envie de rire. Je ris en touchant l'herbe partout autour de moi. Quelque chose a changé sur la toundra, je ne sais pas quoi. La vie est revenue, la vie est réapparue à mes yeux. Je ne suis plus seule. Toute la nature respire du même souffle que moi. Je me lève et j'appelle ma chienne. Pas de réponse. Je commence à faire le tour du lac. Le soleil d'après-midi se reflète sur l'eau. Les vaguelettes scintillent comme des cristaux de glace. Marchant lentement sur la rive, je croise plusieurs bandes d'alevins. Les ombles auraient-ils frayé plus tôt cette année? Je ne suis pas sûre de reconnaître leurs larves. J'arrive bientôt à l'endroit où une petite rivière se jette dans le lac. J'appelle encore Ikasuk, puis commence à remonter le courant, comme les ombles. L'eau est moins profonde qu'aux abords du lac. Je traverse la rivière à un endroit où roulent les galets. J'ai l'impression d'entendre les petites personnes rire sous mes pas. Elles disent « C'est par là, c'est par là !» Je marche encore, jusqu'à l'endroit où la rivière contourne un monticule en faisant une boucle. Derrière le monticule, entre deux lignes rocheuses, de l'eau stagne, formant un petit marais. Au moment où je m'assois sur une pierre pour prendre un peu de repos, Ikasuk jaillit de derrière le monticule. Elle traîne dans sa gueule ma peau d'ours, qui contient tout ce que je possède. Ma lance, mon harpon, mon couteau rond. Il y a aussi une dizaine d'œufs, des œufs d'oiseaux. En les voyant, une faim soudaine me prend. Je les gomme tous en un instant, puis fais craquer longuement les coquilles entre mes doigts. Devant le nez d'Ikasuk qui aboie. Ensuite, j'étale la pâte gluante et écailleuse sur mon visage. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. La toundra est belle, elle est belle et elle chante. Les premières nuits dans la maison de tourbe sont douces. Je suis heureuse de retrouver la clarté fumeuse de la lampe à huile. La femme de mon oncle s'appelle Pukajak, poudre de neige. « Tu as de la chance et nous aussi », me dit-elle en roulant entre ses doigts la petite mèche de lichen qu'elle s'apprête à tremper dans la graisse de phoque. « Nous n'avons pas de petits à naître cet hiver. C'est toi qui vas nous apporter ce souffle chaud au milieu de la nuit. » J'en profite pour l'interroger sur l'abondance et l'euphorie qui semble régner dans le groupe. Les phoques étaient nombreux l'hiver dernier et nous avons énormément pêché cet été. Les enfants sont gras, les adultes rient. Je crois que nous allons passer notre plus bel hiver. Il est doux d'être ainsi accueilli et nourri par une famille. Mon ventre commence à peser à l'avant. Il m'aurait été impossible de continuer à chasser, à pêcher. Mon oncle et sa femme sont attentifs à mes besoins. Et leurs trois garçons, qui ont moins de 10 étés chacun, font semblant de chasser pour moi. Ma paillasse est couverte de fragments d'os, de petits bouts de bois représentant toutes sortes de gibier. Dès notre installation, Pukajak établit la liste des choses qu'on ne doit pas faire en ma présence. Elle interdit, par exemple, les jeux de ficelle à ses fils. Rien ne doit encourager l'enfant que je porte à jouer avec son cordon, à se le passer autour des bras, du ventre ou du cou. Personne ne doit non plus sortir le matin avant moi. Et ce sera encore plus important lorsque l'enfant se rapproche d'arriver et que le tunnel qui obture l'entrée de la maison sera plus étroit à cause de la glace accumulée. Pukajak m'interroge sur le début de ma grossesse. Bien que ce soit ordinairement l'inverse, elle insiste sur le fait que je continue à ne pas manger de gibier terrestre. Pas de viande de morse non plus, qui est trop grasse, ni de poissons plus gros que ceux pouvant passer par le gosier d'un plongeon. Je dois aussi absolument cesser de toucher les armes tranchantes des hommes et n'utiliser que mon propre couteau en demi-lune. À part cela, je suis libre d'occuper mon temps comme je l'entends. Tout le monde ici semble parfaitement insouciant. Les hommes vont à la chasse pour le plaisir et pour entraîner les enfants. Les femmes rapiècent et brodent les habits d'hiver, parfois même ceux du printemps. Elles prennent le temps de faire de beaux ornements, rivalisent d'audace dans l'assemblage des formes et des couleurs. On m'a donné 2 peaux de phoque et 3 peaux d'hermine pour vêtir mon futur enfant. Je mâche, je tanne, je couds. On fait les nœuds pour moi. Le soir, je dors seule dans un coin de la plateforme. Sous la peau de mon ventre, l'enfant bouge comme une vague. Parfois, comme un jeune harfang qui tente de prendre son envol. Je me demande d'où vient ce petit être, de la mer, du ciel ou de la toundra.
C'est beau, c'est très beau, Simone, cette façon de nous transposer, de nous transporter dans ce paysage de froid, de nuit, mais aussi tellement poétique. Et découvrir cette jeune fille, au départ, bien entendu, dans une situation horrible. Hein. Il faut qu'elle se débrouille, et elle s'est débrouillée, et elle a rencontré d'autres personnes, et elle a vécu. Et là, on termine sur un espoir, puisqu'elle va donner naissance à son enfant. Découvrez donc ce très beau livre de Pierre Edos, qui est paru en 2019 aux éditions Le Tripode, donc Bérangère Cournue. Moi, je vais vous lire quelques passages d'un autre livre, donc de Bérangère, qui s'appelle « Élise sur les chemins ». L'histoire, là encore, d'une jeune fille. C'est toujours l'histoire d'une jeune fille. Hein. C'était le cas dans « Née contente à Orebi », c'est le cas de Pierre Edos, c'est le cas de « Élise sur les chemins ». Une fille, c'est elle qui parle. Alors, ce que je dois vous dire quand même, c'est que ce livre a 2 particularités bien précises. C'est un roman librement inspiré de la vie du géographe Élisée Reclus, qui a vécu à la fin du XIXe siècle, qui est mort en 1905. Peut-être ne le connaissez-vous pas. Moi, je ne le connaissais pas, mais ça m'a donné l'occasion d'aller justement essayer de découvrir qui était Élisée Reclus. Et la petite là qui va être le narrateur du livre, elle s'appelle Élise. C'est pas pour rien, bien sûr, qu'elle s'appelle Élise. Et ce livre a une deuxième particularité, c'est qu'il est écrit en vers libres. Et je pense que vous allez le sentir en écoutant la lecture. Je suis une fille, je m'appelle Élise. Je suis née il y a 11 ans, au flanc d'une colline boisée, les pieds dans un ruisseau, la tête dans les bouleaux. Enfant des arbres, fille de l'eau. Bien entendu, j'ai aussi de vrais parents. Ma mère s'appelle Zéline, mon père Jacques, mais on dit plus volontiers Féline et le lion, quand ils sortent les griffes ou font les yeux ronds. Ensemble, ils ont déjà 8 enfants, dont certains déjà grands. Élisée et Onésime ont 17 et 19 ans. Louise, 16, c'est la plus belle d'entre nous. Marie vient juste après, elle a 14 ans. Moi, 11, je l'ai déjà dit. Anna, 9, et Élie, 6. La plus jeune s'appelle bébé Suzanne. Et nous avons aussi un âne. L'été dernier, nos deux frères aînés ont quitté la maison un matin. Tandis qu'ils s'éloignaient sur le chemin, Élie a demandé « Que vont-ils faire ?»« Apprendre la terre », a dit notre père. « Qu'est-ce à dire ?» a demandé Anna. « Qu'on les envoie s'instruire dans une école d'horticulture. » Le lion roulait les airs avec délectation. « Je comprends rien », a dit Élie. « Ils vont étudier l'art des jardins », a dit Louise. « Et celui des arbres à fruits », a précisé Marie. « Spécialité horti », a plaisanté Anna. À côté de nous, Féline ne riait pas. Des larmes roulaient depuis ses joues jusqu'au crâne de Suzanne qui dormait dans ses bras. Le lion aussi avait l'œil humide entre tristesse et fierté. Il regardait les grands s'évader. Un jour, moi aussi, je partirai. Mes parents pleureront, mes frères et mes sœurs aussi. Je les quitterai quand même, les poches pleines de pain et de graines. En attendant, je suis sur la colline, les pieds dans le ruisseau, les cheveux dans les sureaux, enfant des arbres, fille de l'eau. Mes yeux verts scrutent l'endroit et l'envers. Je les pose partout, partout, sur les algues et les cailloux, sur les herbes et sur le houx, et même sur vous. Oh oui, même sur vous. Depuis que nos frères sont partis, le lion travaille dur, à ses cultures, à son jardin. Zéline n'a plus que 6 petits à laver, nourrir, instruire. Alors elle a décidé que non, elle ne ferait plus l'école à la maison. Nous partons le matin dans les bois. Notre mère marche en tête sur le sentier étroit, une chanson aux lèvres, un bâton à la main. Nous traversons des taillis, des clairières, nous empruntons plusieurs chemins, jusqu'à la Sommière, petit mont chauve, entouré de charmes, de trembles, de frênes et de noisetiers. Zéline aime cet endroit. Les oiseaux l'aiment aussi. L'air y est parfumé, le sol moelleux, l'herbe et les mousses grasses et généreuses. Tout autour, les arbres forment une couronne de dentelles d'où coule une lumière douce. C'est ici, dans ce lieu qui l'apaise, que Zéline nous apprend à déchiffrer les plantes autant que les livres, les pierres autant que la poésie. Les premiers temps, là-haut, nous avions pour nous asseoir de simples nattes de joncs noirs. Puis Zéline s'est mise à rêver de petits bancs d'écoliers en pierres lisses et lumineuses. Tout d'abord, le lion a refusé déplacer les blocs de calcaire jusqu'en haut de la Sommière. As-tu perdu la raison ? Il n'en est pas question. Zéline n'a pas insisté auprès de notre père. Elle est plutôt allée trouver les hommes de la carrière qui, de l'autre côté de la forêt, grignotent des pans de falaise. Nous les croisons parfois en cheminant vers la clairière. Ils ne parlent pas la même langue que nous, ont de la barbe et de drôles d'air. Mais Éline sait se faire comprendre. Elle a mimé des bancs, elle a montré la sommière, elle a désigné les blocs de calcaire. Les hommes étrangers, à la mine sévère, ont souri. Ils sont allés à la carrière, ils ont embrassé les morceaux de pierre, les ont transportés jusqu'à notre repère, puis ils les ont taillés, les ont dressés en deux lignes courbes. Nos bancs d'école étaient formés. Quelque temps après, Zéline a eu une autre envie. Un tableau pour écrire. « Ah non !» s'est écrié le lion. « Tu veux de l'ardoise noire dont les feuilles entaillent les doigts ? Je n'irai pas te chercher ça. » Encore une fois, Zéline est allée trouver les travailleurs de la carrière qui ne sont pas d'ici, qui viennent d'un autre pays. Elle a mimé un tableau et l'écriture. Les hommes sont restés quoi ? Ils ne comprenaient pas. Alors Zéline a pris dans sa poche un petit calepin noir qu'elle a posé sur une roche. Elle a tracé quelques chiffres. Les hommes ont dit « chiche ». Zéline était confiante. 4 jours plus tard, ils arrivaient à la sommière avec une grande plaque d'ardoise d'un bleu qu'on n'avait jamais vu. Ils l'ont taillée, ils l'ont dressée. Le tableau sombre était posé. Zéline a sorti des pièces de son sac. Les hommes étrangers ont remercié. Échange de roches contre minerais. Tout le monde était satisfait. Seul le lion, le soir, a rugi. Mais il rugit souvent contre nous, contre maman. Alors qu'avec les gens méchants, il fait souvent tout doux. Vous verrez comment il fera avec vous quand il vous trouvera dans votre trou. À l'école de la Sommière, la vie suivait son cours, jusqu'à ce qu'un jour je surprenne ma mère en conversation avec un triton. Au bord de sa mare, Zéline parlait ainsi. « Triton, entends-tu le vent dans les ramures ? Je crois que les arbres ont un message pour moi. » Face à elle, le triton, dressant sa crête humide, agitait sa tête ronde, tournait des yeux vides. « Si, si, je t'assure, triton !» Il relaie en mon oreille des sons qui viennent de loin, bien au-delà de ce chemin. Et sais-tu, je suis à peu près sûre que ce sont paroles de mes fils. J'entends aussi un bruissement, c'est celui de leurs vêtements frémissant au vent de leur fuite. Ils sont grands, tu sais, mes deux aînés. Et à toi, je peux l'avouer, ils continuent de me manquer. Immobile, les yeux mi-clos, le triton regardait Zéline avec sa bouche fine. Il souriait, mais par-dessous, sa gorge claquait, façon de dire « je m'en fous ». Pour sortir ma mère de ce tête-à-tête inutile, je me suis approchée. « Bouh !» ai-je crié en m'agrippant à ses genoux. Elle a jeté sur moi des yeux effarés. « Je suis le renard !» ai-je ajouté, mal assuré. Ni elle ni moi n'étions prêtes à prolonger la pauvre farce. Elle s'est penchée, m'a embrassée. Nous nous sommes éloignés de la mare. La classe a repris sans tarder. Le soir, sur le chemin du retour, j'ai tenté une approche moins balourde. « Tu es triste, Zéline ?»« Non, ma fille, juste mélancolique. » Le mot ne me disait rien. « Tu as en toi des fleurs à cornettes, les grandes là, avec des cloches violettes. »« Tu confonds avec l'encolie, mon Élise. » Mais il est vrai qu'avec leur tête qui tombe, les encolies ont quelque chose de chagrin. Ce soir-là, Zéline n'a plus rien dit. De mon côté, je remâchais « mélancolie, mélancolie ». De tous les mots, c'était désormais le plus beau que je connaissais. Dès le lendemain matin, je suis allée le dire à la rivière. « Mélancolie, mélancolie », soufflai-je depuis la rive. L'eau répondait en roulant des cailloux dans son lit. Et c'est là qu'une fois de plus, la tête au ras des flots, j'ai vu votre regard, deux points gris surmontés d'une lueur rouge. Je voudrais bien savoir ce que vous faites là, à vous dissimuler comme un rat. Je crois que je vais arrêter là sur l'évocation dernière. Qu'est-ce que c'est que ce regard qu'elle voit, ces deux points gris, dans un trou près de la rivière ? Il y a des moments où on n'est pas loin du fantastique, en tout cas de la mythologie, des légendes, des contes. Ça fait partie du domaine, je dirais, de Bérengère Cornu. On espère avec Simone qu'on vous a donné envie de lire ces deux livres qui sont vraiment beaux. Le dernier étant quand même particulier, cette façon tout au long, ce sont des vers libres. Et ça donne un aspect vraiment bien particulier au livre. Hein. Voilà, qu'on n'arrive peut-être pas trop à en rendre quand on le lit, mais lisez-le vous-même. Voilà. Alors, Bérengère Cornu, je vous ai dit, donc, elle sera à la médiathèque de Chorges le 13 octobre 2022. Je n'ai pas noté l'heure, mais à mon idée, c'est à 18h. En général, c'est ça. Et nous-mêmes, donc, nous ferons des lectures de ces livres. Le 5 octobre, par exemple, on fera des lectures à la médiathèque de Savines-le-Lac. Le 8 octobre, on fera les mêmes lectures à la médiathèque de Chorges. Et le 11 octobre, on fera ces mêmes lectures à la nouvelle librairie à Gap, donc près de Gap. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci Simone. Et à bientôt, j'espère. Au revoir.
Au revoir.